Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Bruno Marsloff. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Et Bruno Marsloff, en fait, l'histoire est rigolote. On s'est, et ça me rajeunit pas, mais on s'est vu il y a 20 ans, quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études, un mémoire qui était sur le temps. C'était le temps, facteur clé de succès du 21e siècle. Et aujourd'hui, on se voit, vous êtes sociologue, vous avez créé l'Institut Chronos, qui est un institut qui est spécialisé sur l'urbanisme et sur... l'évolution du travail, l'évolution des moyens de transport, c'est ça?
Une question de mobilité, en général. Mobilité. Oui.
Et on va parler de la ville. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait depuis quelques années, et qui est intéressant, c'est d'abord cet agrandissement des villes. On va essayer de définir ce que c'est qu'une ville, mais aussi, un mouvement qui est, un questionnement, en tout cas, parce que je crois que la ville a beaucoup fait rêver pendant des décennies. Et aujourd'hui, on se pose la question de vivre à l'extérieur de la ville ou, à avoir une vie, plus naturelle ou en tout cas plus dans la nature, etc., etc. Alors d'abord, on pourrait définir c'est quoi une ville, parce qu'effectivement, en fonction de, enfin entre, alors l'idée c'est pas d'être franco-français et non plus parisianisme, mais c'est vrai qu'il y a des villes qui sont plus ou moins grandes, elles sont de plus en plus grandes. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle une ville exactement?
Alors je vais prendre cette question comme un tremplin, ouais, plutôt que de chercher une définition académique sur lequel on n'arrivera pas à s'entendre. Vous parliez de rêve et ça me fait penser à Italo Calvino, donc cet auteur italien qui a écrit un livre sur les villes invisibles. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une profusion d'imaginaires de villes et en même temps, il dit cette mise en scène débouche sur une impossibilité de définir la ville. La ville aujourd'hui, c'est un corpus très très hétérogène qui va mélanger des monstres comme Shanghai, comme Lagos, comme Jakarta, Sao Paulo, etc.
Combien de millions d'habitants pour mémoire?
Alors, Shanghai, c'est assez intéressant parce que la ville revendiquait en 2015 25 millions d'habitants et une étude du CNRS, qui est une étude satellitaire, donc une autre manière de compter, en compte 80, c'est-à-dire plus que la population française. Wow. Donc, voilà, on ne sait plus très bien où se trouvent les frontières de la ville. Il y a à la fois une migration dans le pays qui vide ses campagnes dans une logique qui est absolument fascinante, où l'urbanisation va plus vite que la démographie, et une incapacité en fait à maîtriser ce développement, et ce qui pose une question, ça pose plusieurs questions, et notamment y a-t-il une fatalité de l'urbanisation? Faut-il complètement vider les campagnes pour vivre en ville? S'agissant de la définition de la ville, il y a aussi le regard que porte Bruno Latour, dans un ouvrage plus récent, dans lequel il parle de Paris, ville invisible. Et il dit, en fait, c'est une question de posture. On n'arrive pas à lire, à définir la ville statique, mais il faut se mettre dans une posture de mouvement. Quand on analyse, en fait, les flux, quand on analyse le trafic, et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'une des caractéristiques essentielles de la ville est celle, c'est sa dimension cinétique. c'est celle de l'hébergement de flux extrêmement intenses qu'on tente de réguler, mais qu'on n'y arrive pas. Et quand on dit ça, il faut pas simplement penser à nos trafics de véhicules motorisés, ouais, à la marche, à tous les modes de transport. C'est aussi les flux de d'autres populations, des touristes, des mafias, du commerce. Aujourd'hui, en fait, la question du flux domine la question de la ville.
D'accord. Et on parlait tout à l'heure, en préparant, d'illusion et de désillusion autour de la ville. C'est quoi et des études que vous avez faites, hein, en particulier, mais c'est quoi les illusions autour de la ville, ou comment on parlait de cette accroche qu'avait fait la SNCF, qui était prendre le temps d'aller vite, mm-hmm, qui est exactement, je pense, la problématique, c'est-à-dire on a tous envie d'habiter en ville pour aller voir son pote au dernier moment, pour profiter de cette expo, pour aller au cinéma, pour avoir tout accessible très rapidement. Et en même temps, on a cette injonction qui est complètement inverse, qui est oui, mais j'ai envie d'être proche de la nature, parce qu'on est de moins en moins proche, en particulier à Paris, qui est une ville qui est quand même construite sans parc, ou vraiment sans peu d'espace vert, hein, comparé à d'autres villes. Donc c'est quoi ces illusions, ces désillusions autour de la ville ?
Prenez le temps d'aller vite. Chapeau d'abord au rédacteur brillant qui a pondu cette accroche publicitaire pour le TGV, et ça date d'il y a maintenant plus de 20 ans, ou en tout cas à peu près 20 ans. Et c'est un oxymore, hein, on dit une chose et son contraire. Et finalement, est-ce que c'est pas le lot des citadins de gérer cette contradiction d'un besoin de ville apaisée et en même temps de cette pression formidable qui est exercée par toute une série de déterminants, celle du travail, celle du numérique, les injonctions, des notifications de nos écrans, etc. Donc, on est dans cette tension permanente. Et en effet, nous, chez Chronos, on réalise un certain nombre d'investigations, d'explorations, et puis d'études. Et on a récemment réalisé, avec l'Opsoco, un institut d'études, un observatoire sur les usages émergents de la ville. 4000 personnes en France et puis 3000 personnes dans trois autres pays limitrophes. Et en fait, il y a en effet, d'un côté, les dystopies, les rejets. En fait, il y a le rejet de tous les excès. La ville est devenue tentaculaire et c'est cette ville-là qu'on rejette. En un siècle de temps, la ville a pris des proportions trop considérables et ingérables. Et il y a là quelque chose qui est insupportable, parce que derrière, il y a toutes les séquelles de cette ville tentaculaire, puisque plus elle est importante, plus elle définit des déplacements et des déplacements subis. Puisque plus elle est importante, plus on va avoir un écart conséquent entre, par exemple, le domicile et le travail. Mais aussi entre le domicile et les ressources de la ville, l'hypermarché qui est à l'extérieur, etc. Donc on est dans une espèce de configuration où, en fait, pour chacun, les azimuts vont se multiplier et se distendre, ce qui fait qu'on est à un moment où c'est insupportable. Et donc, tout ça va définir en fait une croissance des déplacements qui est ingérable. On voit bien que c'est un véritable défi pour les villes que de gérer ces congestions. Et en fait, les rejets se cristallisent autour de cette ville tentaculaire. Puisque il y a une mesure qui est assez intéressante, c'est que un Européen sur deux, 48% en moyenne, et c'est les chiffres sont les mêmes qu'on soit en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, souhaite résider ailleurs que là où ils habitent actuellement. Ce qui est quand même énorme.
Ouais, c'est énorme.
Et ce chiffre, en fait, décroît quand on va vers des petits bourgs, des petites villes ou des communes isolées où on descend à 25%. Et puis, ça monte jusqu'à 70% et plus quand on est dans la grande périphérie parisienne où les pénibilités s'accroissent. Donc, on voit bien que ces mesures disent le rejet de cette ville tentaculaire et de celle de ses excès. C'est trop. C'est trop de bruit, c'est trop de temps perdu, c'est trop de pollution, c'est trop de cherté. Donc la ville devient insupportable.
C'est aussi beaucoup de solitude, non ? J'ai l'impression.
C'est énormément de solitude. C'est environ 44% de la population qui dit cette incongruité d'être seul dans la foule. Et c'est en effet là une véritable difficulté. Et peut-être qu'on peut l'analyser autour de ce que sont les utopies, puisqu'en face de ces dystopies que je viens de décrire, il y a des utopies, ou en tout cas des perspectives utopiques, c'est-à-dire des envies d'une autre ville. Et elles se cristallisent autour de quelques éléments qui sont assez intéressants, qui sont à la fois le tropisme de la proximité. C'est un fondamental de l'urbanité, celui de participer d'un voisinage, de participer des échanges de ce voisinage, donc des dialogues, et de connaître son voisin. Et donc ce tropisme de la proximité est très très fort. Donc ça pose une question, peut-on fabriquer de la ville sur la ville pour satisfaire ce besoin de proximité?
En fait, c'est du communautarisme. C'est-à-dire que quand on reprend le bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Sapiens, où il dit finalement une structure humaine, c'est 150 personnes, et avant un village, quand il y avait plus de 150 personnes, ils se déplaçaient, ils recréaient un autre village, et que finalement les villes sont des structures humaines qui sont pratiques, mais qui ne sont pas structurées pour être humaine ou intégrante, entre guillemets, et du coup on essaye tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les voisins, de recréer des communautés finalement sociales, et c'est peut-être un peu ça. Donc on recrée des... Parce qu'effectivement, quand on avait parlé au téléphone, vous m'aviez dit la solitude est inversement proportionnelle à la taille de la ville, c'est-à-dire qu'en fait, plus la ville est grande, plus on se sent seul. Donc c'est peut-être pour ça qu'on essaie de faire ça, non?
Mais c'est évidemment là le désir, hein, le désir de retrouver une communauté, une familiarité. Il y a une anecdote qui est assez intéressante et très symptomatique. Il y a une dizaine d'années, est apparue à New York et puis dans quelques grandes villes de la côte est et de la côte ouest américaine, une application qui s'appelait WalkScore.
Ouais.
Et WalkScore, c'était quoi? C'était permettre à des habitants de la banlieue, de territoires étoilés des centres, de revenir vers les centres, puisqu'il y avait une appétence là à revenir vers les centres de ville. Ça dit, j'ai besoin, dans ma ville, d'accéder à mes ressources du quotidien dans quelque chose que dans une circonférence que je peux parcourir à pied ou à vélo. Donc c'est cette notion d'accessibilité qui me paraît extrêmement centrale dans la construction de la ville.
Et en même temps, il faudrait prendre le temps de les développer, ces villes. Parce qu'en fait, les villes, c'est des temps longs. En général, quand on développe une ville, c'est plutôt un temps long, parce que c'est des temps de construction, c'est des temps de réflexion. Ah, et en même temps, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de décisions très court-termistes, non ? Enfin, j'ai cette sensation, en tout cas.
Bah, il en est de la ville comme il en est de l'entreprise. Hein. Ses actionnaires souhaitent que, en l'occurrence, les élus qui ont pour horizon leur réélection vont peut-être privilégier le temps immédiat, le temps court, le retour sur investissement, sur la construction d'une vision de la ville. En fait, ce qui nous a vraiment interpellés dans l'étude que j'ai évoquée, c'est le hiatus gigantesque qui existe entre les rêves de ville, les perspectives utopiques de la ville, d'une ville apaisée, d'une ville plutôt nature, on pourrait y revenir parce que c'est essentiel.
J'allais y revenir justement.
Et d'une ville maîtrisée, donc avec en fait une ville dont on s'aperçoit que l'inertie d'un siècle de fordisme, d'une construction qui a été ce qu'on a appelé l'urbanisme fonctionnel, hein, Le Corbusier, où en fait, façonner une ville, c'était répartir l'ensemble de ses fonctions et les relier par l'automobile. Ce modèle-là, il est mort, il est en impasse, on s'en aperçoit, et pourtant, on le fait perdurer. On a une véritable difficulté à rentrer là dans une rupture. Donc, encore une fois, oui, c'est important d'écouter les gens et de savoir ce qu'ils ont en tête. Et cette question, en effet, de la nature, elle est absolument centrale. Dans les 6 archétypes qu'on leur a proposés, les gens plébiscitent la ville-nature de façon extrêmement importante.
Mais ça existe, une ville-nature ?
Eh ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et Bordeaux, qui est sur un projet de Bordeaux Métropole, a acheté cette étude, nous a demandé de faire un échantillonnage, et j'ai été la présenter en début d'année lors du lancement du programme Bordeaux Métropole de 2050, aux côtés d'Alain Juppé. Et à la fin, Alain Juppé a eu 2 remarques extrêmement intéressantes par rapport à cette étude. Il disait « Votre étude m'interpelle. D'un côté, il y a une demande que je ne sais pas satisfaire. » Que nous ne savons pas satisfaire, c'est faire la ville à la campagne et la campagne à la ville. Et pourtant, c'est une requête. Il faut se pencher sur les solutions possibles. Et puis, d'un autre, et ça rejoint notre propos précédent, il disait, vous avez mis le doigt au travers de cette étude sur quelque chose qui nous interpelle depuis même Chaban-Delmas et après il y avait un horizon qui était la croissance de Bordeaux et avec un claim qui était le million, dépasser le million d'habitants.
Ouais.
Donc ça c'était notre envie, notre désir.
Objectif, ouais.
Et on s'aperçut que jamais ça n'avait accroché la population. Et ce que vous êtes en train de me dire, là c'est Juppé qui s'adresse à moi, c'est finalement, c'est l'inverse de ce que les gens attendent. Donc comment en fait là apporter des réponses dans cette espèce de contradiction majeure d'une logique de modernité, de progrès qui voudrait la croissance et manifestement en fait une demande extrêmement antinomique de la part des usagers de la ville.
Mais non, mais c'est... Et moi j'ai l'impression, alors peut-être que c'est dans mon microcosme à moi, mais qu'il y a une tendance à sortir de la ville, à s'éloigner de la ville, et on va revenir sur le travail dans un autre épisode, mais le numérique ça permet justement de s'éloigner de la ville pour travailler à distance potentiellement, et je vois de plus en plus de gens autour de moi qui, alors à Paris, hein, qui s'extraient de la ville, donc ils vont à une demi-heure de Paris typiquement, pour vivre... au milieu de la campagne, entre guillemets, mais reste quand même dans une certaine proximité, parce qu'une demi-heure, c'est pas non plus impossible. Enfin, ça reste faisable, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est une tendance qui arrive.
Il est clair hein, que c'est... Le travail va être le point d'ancrage d'une réflexion stratégique de l'urbain.
C'est parce qu'on montait à la ville, à la base. Hein. Enfin, c'était vraiment ça.
Voilà. Alors, donc... Pour revenir sur cette envie, on s'aperçoit que lorsque on a posé aux gens donc la question de savoir dans quelle mesure la taille de la ville influait sur leur acceptabilité, donc là on voit plus la ville est importante, plus le rejet est important. Et donc il y a des stratégies. Parce que, ceci dit, c'est pas facile de s'évader de sa résidence. Il y a tout un filet de contraintes qui nous retiennent dans la ville, ne serait-ce que celui des sociabilités qui existent quand même, des enfants à l'école, du conjoint qui travaille à côté, du fils étudiant qui n'est pas loin, etc. Donc, en fait, on est pris dans les filets de contraintes. Ce qui explique que, il y a une demande très forte de s'évader de la ville et une impossibilité de le faire. Donc en fait, il faut le réaliser autrement. Et donc le rêve, en fait, c'est de se fixer dans une petite ville à côté de la grande ville. C'est-à-dire à la fois avoir les aménités auxquelles on a été habitué et qui sont extrêmement positives d'une ville dans toutes ses dimensions culturelles, sportives, spectacles, détente, etc. Et en même temps, avoir les petits oiseaux et les fleurs tout près de chez soi. Donc voilà, c'est cette contradiction qu'on a du mal à résoudre et qu'on essaye de gérer. La question, c'est comment remettons de la nature à la campagne ? Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des façades végétalisées. Ça, les gens n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est des jardins partagés. La demande de jardins partagés, c'est 2/3 de la population citadine. C'est incroyable.
Ils veulent cultiver eux-mêmes leurs légumes, c'est ça ?
Bah, ils veulent cultiver eux-mêmes leurs légumes. C'est pas tant cultiver eux-mêmes leurs légumes, c'est de faire quelque chose ensemble et qu'il y ait des espaces qui soient dédiés en fait à la nature, des espaces actifs et pas simplement quelques feuilles sur les murs. Donc on est là dans la recherche d'une autre forme de ville et clairement on est très très en retard.
Et c'est symptomatique d'ailleurs quand il fait un rayon de soleil comme aujourd'hui, on voit les parcs qui sont bondés. C'est-à-dire on en rigole même. Hein. C'est-à-dire que ce soit sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social, enfin quand vous allez dans un parc, c'est tellement plein, c'est la marée humaine quoi. Enfin.
C'est la marée humaine. Je lisais un article, je crois que c'est du New Yorker hier, qui évoquait la mort d'une grande ville en parlant de New York. Et ils évoquaient en fait l'uniformisation de New York, le rejet de toute une partie de la population paupérisée qui n'est plus capable d'accéder dans la partie centrale de les villes, rejetée par les niveaux de loyer. Et il avait une image que j'ai trouvée assez éloquente. Il disait les immeubles continuent d'être construits et ils sont de plus en plus hauts. Et il disait, autour de Central Park, aujourd'hui, il y a quelques centaines d'habitants de ces immeubles qui font de l'ombre aux 40 millions de personnes qui fréquentent Central Park. Puisque plus la taille des immeubles croît, plus l'ombre portée sur Central Park s'étend. Et j'ai trouvé la métaphore extrêmement, extrêmement puissante de dire cette espèce de différence de classe sociale, de revenus qui est en train de s'immiscer dans la ville. Ouais. Aujourd'hui, il y a une espèce de crise qui traverse très très fortement les États-Unis sur ce qu'ils appellent des unaffordable city, hein, la ville inaccessible, avec le rejet dans ces marges de populations qui n'en ont plus les moyens, et donc une croissance bien évidemment des déplacements afférents. Et par exemple sur New York, dans les 3 ou 4 dernières années, quand le revenu a augmenté de 10%, les loyers ont augmenté de 30%. Ouais. Et c'est quelque chose qui existe dans toute ces villes et qui est en train de nous atteindre nous aussi en Europe.
Et pour que les gens réalisent, parce que les gens pensent que Paris est cher, mais Paris est assez peu cher hein, pour une capitale. Cette tour, enfin une des tours qui a été construite à New York, qui est l'une des plus grandes tours d'habitation. Juste pour que les gens aient une idée, l'appartement qui est tout en haut de cette tour, donc penthouse, c'est 100 millions de dollars. Le prix et c'est 10 000 euros de charges mensuelles. Donc juste pour que les gens aient une bonne notion de quoi on parle précisément quand on parle des prix de loyer à New York.
Je sais pas si Paris est cher. Totalement à ce mouvement.
Non, il est dedans, mais il est peu cher par rapport à des villes comme Shanghai.
C'est suffisamment grave puisque pour que une récente tribune de la Fondation Jean Jaurès évoquait le terme de sécession des riches. Il y a une sécession un peu passive par l'argent qui rejette donc toute une partie de la population qui était intrinsèquement citadine et qui aujourd'hui doit aller voir ailleurs. Donc oui, il y a des efforts à Paris comme dans d'autres villes sur le logement social. Mmh. Et en même temps, ça n'empêche pas une espèce de déshérence de cette population qui va aller s'accentuant. Donc là, l'exercice est extrêmement difficile.
Et juste avant de finir, il y avait aussi une notion qui m'intéressait, c'était l'énergie dans une ville. C'est vrai qu'il y a quelques études qui montrent que plus la ville est haute, plus ça rabaisse l'énergie, moins on voit le ciel, plus ça rabaisse l'énergie, sans parler des problèmes de vue, parce qu'on n'a pas assez de perspective, évidemment. Enfin, en tout cas pour les enfants. Donc les yeux se forment mal, mais il y a aussi cette notion d'énergie, il me semble, dans les villes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études sur la largeur des avenues, sur la hauteur des buildings, qui font qu'on voit plus ou moins bien et on est plus ou moins happé dans cette ville, non ?
Alors, ça pose une question intéressante qui est celle de la verticalisation, de la densification et de ce que moi je préfère appeler l'intensification urbaine. Revenons à Paris, parce que c'est assez emblématique. Il est clair que l'urbanisme haussmannien a ceci de favorable, c'est qu'il a favorisé une intensification urbaine. Et cette intensification urbaine, elle s'exprime dans un chiffre qui est assez intéressant, c'est la part de la marche dans les déplacements des Parisiens. C'est supérieur à la moitié des déplacements quotidiens, bien plus que partout ailleurs. Wow. Et c'est favorisé par en fait une accessibilité. On est dans une ville où en fait on peut s'épargner le recours à la voiture. D'ailleurs, il n'y a que 10% des Parisiens qui sont amenés à utiliser leur voiture au quotidien, et on voit que cette part ne cesse de baisser. Donc la question de la marche que j'évoquais tout à l'heure avec le WalkScore, elle est cruciale parce que c'est la question d'une accessibilité paisible aux ressources de la ville.
Ce podcast, il s'appelle Vlan, et je voudrais savoir à qui ou à quoi vous auriez claqué la porte aujourd'hui.
Peut-être à la Smart City.
Ouais.
De ce qu'on comprend des attentes des gens, d'une part dans les archétypes de ville que j'évoquais, c'est la ville qui est la plus rejetée, la ville connectée, alors que c'est la plus pratiquée, puisque quasiment tout le monde mobilise les applications, ne serait-ce que pour les transports, les déplacements, etc. Donc il y a un rejet de la ville connectée, qui s'explique par beaucoup de raisons, mais en même temps, avec la Smart City, on est à des années-lumière de la ville qu'on veut. Quelque part, on peut ranger cette Smart City dans le catalogue des projets où on fait tout pour que tout change et que rien ne change. Hein, la fameuse citation de Lampedusa dans Le Guépard. On fait semblant que de faire une révolution, mais en fait, ça ne fait que faire perdurer un système qui existe déjà. Donc, est-ce que l'horizon de la ville, c'est cette digital fake city? Il s'agit pas de contester l'omniprésence du numérique. Plus aucun secteur de la ville n'échappe au numérique. Il est là, il est bien là. La question, c'est est-ce que on doit refabriquer la ville sur le numérique, ou est-ce qu'il faut qu'on se construise une vision de la ville pour laquelle on va éventuellement mobiliser le numérique en tant que moyen pour atteindre cet horizon et cette autre vision de la ville.
Merci beaucoup, Bruno.
De rien.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.